c'est Joseph et Marie qui arrivent à Bethléem et ils cherchent un logement pour que Marie puisse se reposer et accoucher. Et ils rencontrent un aubergiste et Joseph supplie l'aubergiste et lui dit « S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, ma femme va accoucher. » Alors l'aubergiste répond « Désolé, mais c'est pas de ma faute. » Et Joseph lui dit « Mais c'est pas de ma faute non plus. » Cette petite histoire a été racontée il y a déjà plusieurs années par un des responsables de l'église anglicane, Desmond Tutu, et elle illustre le thème qui va nous occuper ce matin, qui est la conception virginale de Jésus. C'est-à-dire le fait que Marie, la future mère de Jésus, est tombée enceinte alors qu'elle était vierge. Conception virginale, la virginité de Marie. C'est un des aspects importants de la venue du Christ il y a 2000 ans, et c'est un des éléments de notre foi chrétienne. Et en ce premier dimanche du mois, à l'occasion de cette prédication de doctrine, comme chaque premier dimanche du mois, nous allons donc nous pencher sur ce thème, la conception virginale. Et j'aimerais lire avec vous deux textes, un dans l'évangile selon Luc et un dans l'évangile selon Matthieu. Donc si vous avez une Bible avec vous, vous pourrez marquer la page à l'un ou l'autre de ces textes. Nous lirons aussi deux versets dans l'évangile selon Jean. Lisons d'abord Luc chapitre 1. À partir du verset 26. Luc 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. » Vous pouvez garder cette page et tourner quelques pages en arrière au début de l'évangile selon Matthieu. Matthieu, chapitre 1, donc tout au début du Nouveau Testament. Nous allons lire là un deuxième texte. Matthieu, chapitre 1, au verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui, mais il ne la connut pas, c'est-à-dire qu'il n'eut pas de relation sexuelle avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté Jésus, un fils auquel il donna le nom de Jésus. Pardon. Donc vous pouvez marquer la page de ces deux chapitres, qui vont être les deux textes principaux pour notre réflexion de ce matin. Je lis encore deux versets dans Jean chapitre 1, donc Matthieu 1, Luc 1, Jean 1. Juste deux versets, les versets 14 et 18. « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. » Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a fait connaître. Amen. Ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est relever quelques points clés dans ces trois textes, en particulier dans les textes de Matthieu et de Luc, et de voir en quoi ces textes, autour du thème de la conception virginale de Jésus, peuvent nous encourager dans notre foi. Quelques mots sur le contexte de ces textes que nous venons de lire. Luc commence au verset 26 en disant « au sixième mois », c'est-à-dire au sixième mois de grossesse d'Élisabeth, femme du prêtre Zacharie, qui était stérile. Et on retrouve là un thème qui revient plusieurs fois dans la Bible. Dieu a un plan, Dieu fait une promesse qu'il va envoyer quelqu'un pour sauver son peuple. Et plusieurs fois dans l'Ancien Testament, et on voit que c'est le cas aussi dans le Nouveau Testament, cette promesse se confronte à une réalité humaine, des hommes et des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et donc qui, naturellement, ne peuvent pas mettre en œuvre cette promesse de Dieu. C'était le cas de Sarah, et d'Abraham, c'était le cas de Rebecca et d'Isaac, c'était le cas de Rachel et de Jacob, des femmes stériles, des situations qui, à vue humaine, ne peuvent pas permettre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Eh bien, là encore, Dieu accorde à Élisabeth, comme il a accordé à Sarah, à Rebecca, à Rachel, une grossesse qui, pour Élisabeth, donne naissance à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dernier prophète de l'Ancien Testament, nouveau Élie, qui vient préparer la venue du Messie, c'est-à-dire du Sauveur d'Israël. Dans l'Évangile selon Matthieu, on se situe un petit peu plus tard. Luc annonce, par l'intermédiaire de l'ange, à Marie la venue du Sauveur. Dans l'Évangile selon Matthieu, c'est Joseph qui reçoit cette révélation. Il est au courant que sa fiancée est enceinte, et donc il se propose secrètement de rompre avec elle. À l'époque, une adolescente non mariée qui tombe enceinte est rejetée par son mari et par la société juive, et elle est calomniée publiquement. Le texte nous dit que Joseph est un homme bien, et qu'il ne veut pas jeter Marie en pâture à la calomnie publique, au potin du moment. Mais il est stoppé dans ce projet par un ange. Et on voit dans les deux situations, que ce soit pour Marie et pour Joseph, dans cet événement particulier de la venue de Jésus, de la naissance de Jésus, et son père et sa mère reçoivent la visite d'un messager, d'un ange. L'évangile de Jean nous dit « Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est cette parole, Dieu lui-même, qui se fait chair et qui vient nous rendre visite, qui nous a rendu visite il y a 2000 ans. Voilà quelques mots sur le contexte de ces trois textes. Premier point de cette prédication ce matin, le constat de la virginité de Marie. La Vierge Marie. Les deux textes de Luc et de Matthieu parlent de la virginité de Marie et même insistent à plusieurs reprises sur ce fait. Nous lisons dans Luc, au chapitre 1 et au verset 27. Luc 1, 27. Que l'ange est envoyé chez une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et que le nom de cette vierge était Marie. Deux fois le mot vierge est souligné. Et quelques versets plus loin, au verset 34, alors que l'ange annonce à Marie cette naissance, Marie pose la question qui tue. Comment cela se fera-t-il? Comment est-ce possible? Parce que je ne connais pas d'homme. Le verbe connaître ici est un euphémisme, c'est une façon de parler des relations sexuelles dans le couple. Comment est-ce que je vais tomber enceinte puisque je n'ai pas de relation sexuelle avec un homme? Et dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 1 et au verset 18, nous lisons « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte. » Et un petit peu plus loin, au verset 22 et au verset 23, Matthieu rappelle la prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » Vous voyez cette insistance, et chez Luc et chez Matthieu, pour constater la réalité de la situation de Joseph et Marie. C'est ça la conception virginale. Marie était vierge et pourtant elle est tombée enceinte. Ça c'est le constat, premier point. La question qui se pose maintenant c'est comment est-ce qu'on interprète cette situation? Et ce sera mon deuxième point et le point que je développerai le plus dans cette prédication. Comment interpréter cette conception virginale de Jésus? J'évoquerai avec vous trois façons de comprendre. La première, c'est de se dire, quand on lit ces textes, mais on nous raconte une histoire là. Il y a quelque chose de... C'est une farce, on n'est pas dupe. Hein. Surtout que tomber enceinte alors qu'on est vierge, techniquement c'est possible, sur un plan médical. Là, le récit biblique... Brode, c'est une sorte de roman. Hein. Mais en réalité, la grossesse de Marie peut très bien s'expliquer scientifiquement. Et aujourd'hui, cela peut arriver qu'une jeune femme accouche alors qu'elle est vierge. Elle n'a pas eu de relation sexuelle interne, mais il suffit qu'un spermatozoïde parvienne à remonter jusqu'à l'ovule pour qu'il y ait fécondation. Et on dirait, ben voilà, c'est ça qui est arrivé à Marie. Le problème, c'est que et Matthieu et Luc disent clairement qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle. Ni interne, ni externe, qui aurait permis une fécondation. C'est ce que traduit la question de Marie. Comment cela est-il possible? Comment cela se produira-t-il? Tu me dis que je vais être enceinte, mais... Comment est-ce possible? Je n'ai pas de relation sexuelle. Et c'est aussi ce que Matthieu dit. Marie s'est trouvée enceinte avant leur union, c'est-à-dire avant tout rapport sexuel. Et alors que l'ange est apparu à Joseph, en Matthieu chapitre 1, Matthieu précise au verset 25 que Joseph n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie jusqu'à ce qu'elle accouche de Jésus, pour bien nous signifier qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel. ni à la conception, ni tout au long de la grossesse. Jésus n'est pas le fruit de l'union des gamètes de Joseph et de Marie, il est fruit de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que nous dit Matthieu. Elle se trouvera, à Joseph, il dit, elle se trouva enceinte par l'union, par l'action du Saint-Esprit, pardon. Et au verset 20, comme il pensait à Joseph à répudier sa fiancée, l'ange lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et Luc le dit aussi, l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. On peut donc écarter cette interprétation qui dit que là on a affaire à un roman. C'est une histoire pour les enfants, mais nous les adultes, on comprend qu'il y a un truc. Non. Deuxième façon de comprendre, c'est de dire, mais c'est pas un roman, c'est un mythe. On trouve ça dans les légendes. Des mythes où on voit des dieux fusionner avec les humains pour donner naissance à des demi-dieux. La mythologie grecque, par exemple, regorge d'histoires de ce genre où les dieux s'unissent aux filles des hommes pour engendrer des êtres hybrides. Et là, nous aurions affaire à un mythe, l'union entre l'esprit des dieux ou de Dieu et la jeune Marie qui donne naissance à ce Jésus mi-homme, mi-dieu. Et cette histoire de naissance dite extraordinaire, c'est quand même un peu dur à avaler au XXIe siècle. En fait, c'est un mythe pour nous apprendre quelque chose, mais cela n'aurait rien d'historique. Le problème, c'est que les textes que nous avons lus ne parlent pas de relations sexuelles entre Dieu et Marie, ou entre le Saint-Esprit et Marie, ou entre les dieux et les hommes. Jean parle d'incarnation, c'est-à-dire que le Fils s'est fait chair, c'est ça l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Il n'est pas ici question que Dieu s'accouple avec une femme, mais que Dieu endosse la nature humaine. En Luc, au chapitre 1 et au verset 35, il est dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi », ce qui ne signifie pas « couchera avec toi ». Et Luc dit « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression, te couvrira de son ombre? Eh bien, il y a là, très probablement, une allusion au début de la Genèse, chapitre 1, verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit planait au-dessus des eaux, ou couvrait la surface des eaux. C'est la même expression. Autrement dit, le Saint-Esprit aurait ici non pas un rôle procréateur, mais créateur. C'est-à-dire que l'Esprit ne féconde pas Marie, elle ne prête pas son ovule ou son corps à Dieu, mais le Saint-Esprit crée une vie nouvelle sans l'intervention de Marie. Matthieu, chapitre 1, verset 20, dit, c'est l'ange qui parle à Joseph, « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Marie n'a pas conçu un enfant avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de collaboration ici entre l'humanité et Dieu pour donner naissance au Sauveur du monde. Mais la vie de l'enfant qu'elle porte en son sein vient de Dieu et de Dieu seul. Nous pouvons donc aussi écarter cette interprétation mythique. La conception virginale de Jésus n'est pas un mythe, mais un miracle. Et c'est la troisième interprétation que je vous propose. Les textes ne nous précisent pas comment s'est faite concrètement la conception de Jésus. Nous avons lu que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais ni Matthieu, ni Luc, ni Jean n'ont fait d'enquête biologique. Ils ont recueilli des témoignages, probablement d'ailleurs le témoignage de Marie, puisqu'on voit qu'elle est présente avec les apôtres et les premiers disciples dans le livre des Actes. Et probablement que Matthieu et surtout Luc ont interviewé Marie pour avoir ces récits. Et Marie a pu probablement leur confirmer « Oui, c'est vrai, j'étais vierge quand je suis tombée enceinte du Christ. » Ils ont recueilli des témoignages et on voit par exemple pendant les noces de Cana qu'on ne sait pas comment Jésus change l'eau en vin. Eh bien là non plus, on ne sait pas comment Marie tombe enceinte à cause du Saint-Esprit. Mais c'est bien ce qui a lieu. Ce qui nous pose la question ici, qu'est-ce qu'un miracle ? Réponse, un miracle, c'est un événement qui se produit en dehors des lois de la création, en dehors du cadre qui régit le fonctionnement de notre monde, de notre corps, etc. Prenons un exemple. Si vous avez un rhume, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez prier pour guérir, vous pouvez prendre des médicaments, vous pouvez vous reposer. Vous êtes guéri. Y a-t-il là un miracle ? Votre corps s'est rétabli selon les lois qui régissent la santé de votre corps. Il n'y a pas forcément là un événement extraordinaire sur un plan biologique. Alors, on peut se dire, Dieu m'a miraculeusement rétabli, c'est un miracle parce que je me suis rétabli vite. Mais y a-t-il un miracle au sens fort du terme ? Ce n'est pas sûr. Autre exemple, vous cherchez un emploi. Vous envoyez des lettres, vous répondez à des petites annonces. Votre candidature est retenue et débouche sur un emploi. Il n'y a pas là forcément un miracle, mais la providence de Dieu qui fait agir dans un même sens, dans une même direction, des séries de causes qui nous échappent, mais que Dieu, lui, maîtrise parfaitement. Par contre, ici, dans les textes que nous avons lus, il y a un miracle au sens fort du terme. C'est-à-dire que quand Dieu a établi les lois qui régissent la sexualité humaine, comment on fait des bébés ? Ma fille m'a posé la question hier. Eh bien, nous répondons, nous comprenons que Dieu a mis en place la sexualité comme une bonne chose. Un homme et une femme se rencontrent sexuellement, et dans cette rencontre, une nouvelle vie, une nouvelle personne peut naître. C'est pas systématique, mais c'est quand même la norme, ça arrive un certain nombre de fois. Eh bien, ici, il n'y a pas de relation sexuelle. Joseph et Marie n'ont pas couché ensemble. Il n'y a aucun moyen, humainement parlant, que Marie tombe enceinte. Et pourtant, elle tombe enceinte. Et c'est ce que la parole de l'ange vient mettre en relief ici. Rien n'est impossible à Dieu.
Amen.
C'est là que se situe le miracle. C'est l'ange lui-même qui confirme qu'il y a là un miracle. Dieu s'est fait homme en Jésus, la parole s'est faite chair. La conception virginale de Jésus est donc le signe miraculeux que Dieu s'est incarné. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Joseph et Marie. Il n'y a pas eu, jusque-là, et il n'y a pas eu, depuis ce moment-là, d'événements semblables dans toute l'histoire de notre humanité. Et je disais dans ma prédication il y a 15 jours qu'il y a un seul évangile, un seul sacrifice pour nos péchés, une seule résurrection, je pourrais ajouter ce matin, une seule incarnation, une seule conception virginale. Premier point donc, nous constatons avec l'évangile que Marie tombe enceinte alors qu'elle est vierge. Deuxième point, nous voyons que cette conception virginale est l'œuvre de Dieu, c'est un miracle. Troisième point, avant de passer et de terminer avec des considérations plus pratiques, nous voyons qu'il y a un lien entre cet article de notre foi, la conception virginale de Jésus, et le fait que Jésus soit sans péché. Alors vous me direz, mais d'où est-ce qu'on sort ça? Parce que comme ça, spontanément, on se demande d'où ça vient. On va le voir. Disons-le autrement. Si nous comprenons que Jésus a été miraculeusement conçu par le Saint-Esprit alors que Marie était vierge, alors nous pouvons comprendre pourquoi la Bible nous dit aussi que Jésus était sans péché. C'est ce que dit Luc au verset 35 du texte que nous avons lu, Luc 1, verset 35. À la question de Marie, mais comment cela se produira-t-il ? Puisque je ne connais pas d'homme, l'ange répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Là, il y a un verset très important. Le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Il y a un lien évident entre la question de Marie et la réponse de l'ange. Comment est-ce possible? Parce que c'est l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pourquoi Jésus est sans péché. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus est digne d'être appelé Fils de Dieu parce qu'il est sans péché. Et c'est aussi ce que dit le texte que nous avons lu dans Jean. Je le relis, Jean 1, verset 14. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui vit dans le sein du Père, l'a fait connaître. C'est parce que Jésus est Dieu qu'il a été préservé du péché à sa naissance et tout au long de sa vie. Pourtant, en tant qu'homme, Jésus a été tenté comme nous tous, mais il a résisté au mal. Jésus n'est pas un de ces héros de la mythologie, mi-homme, mi-Dieu. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et c'est parce qu'il n'a pas été lui-même pécheur qu'il peut nous sauver du péché. Car c'est pour cela qu'il est venu. Et c'est ce que dit notre texte dans Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Yeshua, le salut, le sauveur, c'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Il y a donc un lien entre tous ces éléments de notre foi chrétienne. Affirmer que Jésus a été conçu miraculeusement et affirmer aussi que Jésus est sans péché, cela fait partie de notre foi chrétienne. Cela veut dire que Jésus n'a pas hérité du péché d'Adam, le péché originel, parce que Jésus n'est pas issu de deux lignées humaines. Il est un nouvel Adam. Il n'est pas d'abord le fils de Marie et le fils de Joseph. Il est un nouvel Adam. Un nouveau représentant, un nouveau chef d'une humanité nouvelle. Celui qui va régner éternellement, nous dit Luc, au chapitre 1 et au verset 33. Son règne sera éternel. Il y a donc un seul évangile, une seule mort, un seul sacrifice qui nous sauve du péché, une seule résurrection, une seule conception virginale et un seul homme qui ait jamais été sans péché, Jésus-Christ. Notez que ce n'est pas ce que soutient l'Église catholique romaine. Et il ne faut pas confondre ici deux expressions. la conception virginale, qui concerne Jésus, et l'Immaculée Conception, qui dans la théologie catholique, concerne Marie. Je vais dire un mot à ce sujet parce que le texte nous invite à parler un peu de Marie. Le dogme de l'Immaculée Conception a été promulgué par le catholicisme romain en 1854, il y a à peu près 150 ans. C'est l'idée que Marie aurait elle aussi été préservée du péché originel par une grâce particulière. On cherche ici à expliquer, mais pourquoi Jésus est sans péché? Alors on va dire, mais c'est parce que sa mère était sans péché. Marie aurait reçu une grâce particulière. N'est-ce pas d'ailleurs ce que disent les textes que nous avons lus? Luc 1, verset 28. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Et puis au verset 30, « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Et l'Église catholique romaine s'appuie sur ces textes pour dire, voyez, elle a eu une grâce particulière, elle a été préservée du péché originel, comme Jésus. Le problème, c'est que la grâce dont parlent les textes ici, c'est plutôt la grâce d'enfanter le Sauveur du monde. Et il me semble que c'est forcer les textes que d'y lire « Marie est sans péché ». Et d'ailleurs, l'Église catholique elle-même reconnaît que ce dogme de l'Immaculée Conception de Marie n'est pas clairement présenté dans l'Écriture. Pourtant, ce dogme est un article de foi catholique. Mais du point de vue protestant évangélique, il faut écarter ce point de la doctrine catholique qui n'a pas de fondement biblique. Au contraire, l'Écriture nous enseigne que Jésus, et Jésus seul, était sans péché et peut donc nous sauver du péché. Dire que Marie était aussi sans péché, c'est lui accorder la possibilité d'intervenir dans notre salut, ce qui est bibliquement faux. Il n'y a qu'un seul sauveur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Marie a eu un rôle unique. Aucune autre femme n'a porté en son sein le Sauveur du monde. Marie a eu un rôle unique et important. Elle a donné naissance au Sauveur, mais son rôle s'arrête là, parce qu'elle est aussi, elle fait aussi partie de l'humanité pécheresse. Tous ont péché, dit Paul. Romains 3, 23, il ne dit pas « tous ont péché, sauf Marie ». Et notez que c'est Marie elle-même qui nous dit, un petit peu plus loin dans le texte de Luc, chapitre 1, verset 46, « Alors qu'elle chante à la gloire de Dieu pour cette annonce de la venue du Messie, elle dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur ». Si donc Marie a besoin d'être sauvée, c'est parce qu'elle n'est pas sans péché. Elle a besoin d'un sauveur. Alors, quel message retenir de cette prédication ce matin? En quoi ce point de doctrine, la conception virginale de Jésus, est-il important et utile pour notre foi chrétienne et pour notre marche avec Dieu pour cette semaine? Trois choses. Premièrement, ces textes peuvent nous aider et renouveler notre façon de comprendre et peut-être aussi de fêter Noël. Pour nos contemporains qui sont si attirés par le surnaturel, je trouve qu'il y a là dans ces textes de quoi réfléchir. Dieu se fait homme. Le Fils s'est incarné de façon miraculeuse. Il était sans péché, il est venu porter nos péchés pour que nous soyons sauvés. Là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Là, il faut creuser, là. Un homme qui naît sans l'intervention d'un homme et d'une femme pour le concevoir, ça c'est paranormal, c'est extraordinaire. Il faut chercher quelque chose là. Et il faut le dire autour de nous. Allez, cherchez. Pourquoi cette naissance extraordinaire, unique. Il y a là, de la part de Dieu, un cadeau spécial, un cadeau inestimable, devant lequel le commerce, qui est devenu Noël, s'effondre. Et peut-être nous n'en avons pas toujours conscience, que lorsque nous fêtons Noël, au-delà du beau repas, des cadeaux, cette venue du Christ, elle est fondamentale. Deuxièmement, ces textes nous montrent le triomphe de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne le salut. La venue du Christ ne dépend pas de notre humanité. La naissance de Jésus, la conception et la naissance de Jésus échappent à Joseph. Souvenez-vous la petite histoire au début. L'aubergiste qui dit à Joseph, c'est pas de ma faute si votre femme est enceinte. Et Joseph qui répond, mais c'est pas de ma faute non plus. Hein, voilà. Et oui, il n'y est pour rien. Ça lui tombe dessus. Et cela échappe aussi à Marie. Et je me dis, en lisant ces textes, en y réfléchissant, que peut-être Dieu veut aussi, par ces textes, faire céder notre orgueil, qui consiste à vouloir faire quelque chose pour mériter sa faveur. Et là, on voit bien que ni Marie, ni Joseph n'y sont pour quelque chose. Ça leur tombe dessus. Et ça, pour notre moi, pour notre ego personnel, c'est difficile à vivre. Mais c'est ça la foi. C'est accepter que ce soit l'œuvre de Dieu qui nous sauve et non pas la nôtre. Alors, est-ce que ça veut dire que nous ne servons à rien parce que nous n'avons rien à faire? Et ce sera mon troisième et dernier point. Et la réponse est non. Regardons d'un peu plus près l'exemple de Marie et de Joseph. D'abord Marie. Dans ces textes que nous avons lus, Marie est le modèle du croyant qui reçoit par la foi, et par la foi seule, la grâce que Dieu lui accorde. Recevoir, c'est être disponible et faire fructifier, on pourrait même dire en quelque sorte donner naissance à ce que Dieu attend de nous. Et il y a là, dans cette annonce de l'ange à Marie et dans ce que Marie en fait en recevant cette parole, il y a là une invitation à imiter la foi de Marie. Marie qui dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Quel exemple de foi! Il y a là un message pour nous et peut-être plus spécialement pour vous, mesdames, puisque Marie est une femme. Marie apparaît ici comme un modèle de service, de soumission, de réceptivité à la parole de Dieu. Et vous avez, vous aussi, mesdames, à accepter votre vie de femme, et pour certaines de mère, selon ce que Dieu veut, et non selon vos propres calculs. On voit Marie, ça lui tombe dessus. Elle avait peut-être pas prévu de tomber enceinte à 15-16 ans. Et pourtant, c'est cela à quoi Dieu l'appelle, et cela bouleverse sa vie. Elle peut soit freiner, soit dire à Dieu, bien, j'accepte, on y va. Et c'est ce qu'elle fait. Regardons du côté de Joseph. Joseph, dans ce songe qu'il fait, et les décisions qu'il prend, une fois que l'ange lui est apparu, Joseph nous est présenté comme un modèle pour le croyant qui accepte la parole de Dieu alors que les circonstances ont pris une tournure qui l'inquiète. La situation lui échappe, il ne maîtrise plus rien et il a besoin qu'on lui rappelle qui il est pour ne pas fuir ses responsabilités. C'est ce que l'ange fait en Matthieu 1, verset 20. Alors que Joseph pensait, dans le secret de son cœur, à dire gentiment à Marie, bon ben, écoute, hein, t'es tombée enceinte, on n'est pas encore mariés, on va se séparer, et puis voilà, l'histoire en reste là. Hein. Eh bien, l'ange dit à Joseph, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » C'est comme si l'ange lui disait, tu n'y es pour rien, c'est pas de ta faute, mais tu as néanmoins ton rôle à jouer, ta place à tenir. Verset 24, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme chez lui. Il y a là un message pour chacun de nous. Comment assumer les responsabilités que Dieu nous donne ? En écoutant sa parole et en lui obéissant. Il y a aussi peut-être un message plus spécial pour nous, messieurs, puisque Joseph est un homme. Nous, les hommes, nous aimons bien maîtriser les choses et le cours des événements. Et quand ce n'est plus possible, quand les circonstances changent, quand l'imprévu surgit pour nous, nous avons du mal à faire confiance à Dieu. Nous sommes tentés de fuir nos responsabilités d'hommes. Ah, il y a des dames qui disent. Nos responsabilités d'hommes et pour certains d'entre nous, nos responsabilités de mari et de chef de famille. Prenons exemple sur Joseph. Nous ne sommes pas fils de David, mais nous sommes enfants de Dieu. C'est donc notre identité en Christ qui peut nous aider à être de meilleurs hommes, de meilleurs maris, de meilleurs pères. Nous sommes chrétiens. Qu'est-ce que cela signifie ? Chrétien, cela veut dire petit Christ. Cela veut dire que le nom de Christ est en nous. Cela veut dire que nous appartenons à Dieu. Et donc, lorsque les situations que nous rencontrons nous bouleversent, lorsque nous perdons nos repères parce que nous ne maîtrisons plus rien, nous pouvons nous rappeler que nous appartenons à Dieu. Et donc que nous ne craignons rien, et donc que nous pouvons assumer les responsabilités que Dieu nous confie. Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, mais il doit assumer son rôle de père adoptif. Et ça, il n'y a que lui qui peut le faire. Ah, il y a, en tout cas, c'est lui que Dieu a appelé pour faire ça. Donc il n'y a pas d'autre qui peut le faire. Il ne doit pas se débiner là. Il doit y aller. Il doit aussi accepter Marie comme sa femme. Vous avez remarqué, j'ai insisté sur ce mot dans la lecture tout à l'heure. Sa femme. Il prend ta femme. Ils ne sont pas encore mariés. C'est un message fort qui est envoyé à Joseph. Si, elle est ta femme. Vous êtes fiancée, elle est enceinte, pas de toi, mais c'est ta femme. Et tu dois la prendre pour femme comme elle est. Sa femme change, il ne maîtrise plus rien, Joseph, mais son rôle n'est pas de maîtriser les circonstances, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Verset 24, « À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. » Quel exemple de foi pour nous. Alors, messieurs, ne nous décourageons pas si les circonstances bousculent notre idéal masculin ou notre honneur, mais assumons notre service pour Dieu et les autres dans l'obéissance et dans l'amour. Que ce soit du côté de Marie ou de Joseph, des hommes ou des femmes, c'est d'entre notre nouvelle identité en Christ que nous parviendrons à assumer nos responsabilités, notre service, et non pas à fuir. C'est parce que nous sommes chrétiens que nous trouverons la confiance nécessaire dans la grâce de Dieu pour continuer la route. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voyons que ce n'est pas juste des mots, juste des concepts théologiques, mais que ça a de l'importance de comprendre pourquoi tu es né sans l'intervention d'un homme et d'une femme, Et nous mesurons aussi les conséquences que cela implique pour notre propre vie d'homme ou de femme, maintenant, aujourd'hui, ou de père ou de mère. Seigneur, c'est bien difficile de te suivre sur ce chemin, et nous n'avons bien souvent pas les forces ou les ressources pour faire face aux exigences de la vie de couple, de la vie de famille, de la vie d'homme et de femme dans cette société qui nous propose des modèles de virilité qui ne correspondent pas à ce que tu veux. Nous avons besoin d'apprendre à t'écouter, à t'obéir. Et c'est en cela que nous trouverons la force d'être une femme, le courage d'être un homme. Seigneur, conduis-nous tout au long de cette semaine, aide-nous à méditer ces textes alors que nous préparons Noël. Aide-nous, Seigneur, à mieux comprendre qui tu es, le Fils qui s'est fait homme pour nous sauver de nos péchés. Gloire à toi, Seigneur, et que ton nom ne soit pas seulement une étiquette chrétien, mais une réalité vivante dans notre vie tous les jours de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen.